forcément être évident, mais on va y arriver. Voilà. Donc, ça fait longtemps que je vous promets un message sur l'échec, vachement réjouissant pour le début de l'année. C'est pas évident. Je vous demande simplement, pour démarrer, de lire le psaume 139. Voilà. Mon pot de colle n'approuve pas. Voilà. Je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut qu'on réfléchisse à l'échec. Avant, je ferai une petite allusion à ce que j'ai dit la semaine dernière. Arnaud m'a fait remarquer, c'est intéressant hein, ce qu'on dit parfois sans s'en rendre compte, les messages derrière ce qu'on dit. Et il m'a fait remarquer que quand j'ai parlé sur l'échec, j'ai répété plusieurs fois « pour nous chrétiens ». Alors, je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué, mais ça a choqué Arnaud. Et j'ai dit non, je n'étais pas du tout consciente d'avoir dit ça. Il m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as souvent dit, pour nous chrétiens, l'échec, tatata, pour nous chrétiens? Et j'ai dit, c'est intéressant. Comme quoi, hein, les mots reflètent des choses qu'on pense profondément, sans même le dire. Et j'ai dit, oui, je pense que tu as raison. C'est parce que l'échec est plus un problème pour nous chrétiens que pour les non-chrétiens. Pourquoi? Parce que pour un chrétien, on lit la parole de Dieu et on lit des versets, je n'ai pas toutes les références, mais je les ai juste alignés. Tout est possible à celui qui croit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Dieu, je ferai des exploits. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu seras la tête et non la queue, etc. Et quand on est dans l'échec, ça colle pas, quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est la vérité, la parole de Dieu. Et moi, je suis dans l'échec. Donc, là, on a un gros problème. Ou la Bible ne dit pas la vérité, ou nous, on est vraiment des ratés, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, avant d'aborder la notion d'échec, on va quand même lire, je pense que c'est précieux, de commencer par lire la vérité de la parole de Dieu. Psaume 139. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. Dieu sait exactement ce que vous pensez. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Important par rapport à l'échec. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Etc. Et ce verset que on lit souvent, hein, c'est toi qui as formé mes reins, tu m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Et puis bon, vous connaissez la suite de ce psaume. Je voulais lire ça parce que quand on parle de l'échec, on peut devenir très négatif. Et il faut le lire en réfléchissant bien dans ce contexte. Dieu est avec nous tous les jours. Il sait tout. Il est autour de nous. Il nous connaît parfaitement bien et il veille sur nous. Donc déjà, ça, c'était important de situer ça parce que, voilà, quand on vit un échec, on a l'impression grave que Dieu nous abandonne. Alors, je me suis quand même renseignée d'où vient le mot échec. Alors, curieusement, hein, c'est en arabe. Ça vient de Shahmat, le roi est mort, échec et mat. Le roi est mort. On le repère aux alentours de l'année 1080. Donc, vous voyez, c'est vieux, la notion de échec et mat. Ça vient de là, le mot échec, du jeu des échecs. Le dictionnaire dit que c'est un revers éprouvé par quelqu'un qui voit ses espérances trompées. Ça, c'est important. Saint-Exupéry, par contre, a dit « les échecs fortifient les forts ». Intéressant. Et les forts, je crois qu'on est fort en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que quelque part, les échecs doivent nous fortifier. J'ai pensé aussi au mot échoué. Vous savez, pour un bateau, on dit qu'il est échoué quand il touche le fond par accident. Et combien de fois on peut se dire, ouais, j'ai touché le fond, ou je touche le fond, ou je vais toucher le fond. Il se trouve arrêté dans sa marche. Donc l'échec, ce n'est pas toujours nécessairement un gros pépin, mais ça peut être simplement être arrêté dans sa marche. S'arrêter par lassitude, dit le dictionnaire. Ah, quand même, hein. Puis après, bon, c'est devenu raté, manqué. En anglais, vous avez le mot failure et fail, faillir, faire défaut, manquer, rater, etc. Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on va parler du mot échec. Alors donc, pour nous les chrétiens, comme disait si bien Arnaud, comme il l'a relevé, il faut se rappeler que toutes ces promesses de la Bible, « Tout est possible à celui qui croit, je puis tout par celui qui me fortifie », elles ont des conditions. Ah, et oui, il y a toujours un « si » avant, si vous regardez bien. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Si vous observez les commandements que je vous ai prescrits, si tu fais de l'Éternel tes délices, etc., etc. Malheureusement, on a la très mauvaise habitude, hein, dans les milieux chrétiens, je crois qu'on n'est pas les seules victimes de ça, d'oublier la condition. Mais non, c'est conditionnel. Les promesses de Dieu sont conditionnelles. Sauf celle d'être toujours à nos côtés. Mais toutes les autres, elles sont conditionnelles. Et ensuite, on peut remarquer que dans la vie, il y a différentes, on l'a vu tout à l'heure, hein, différentes sortes d'échecs. Entre le sentiment d'échec, le fait qu'on ait échoué comme un bateau, et puis bah, tous les autres échecs de notre vie, il y a différentes sortes. Alors, on ne va pas les voir toutes, parce que je pense que ce serait trop long, mais on va juste évoquer quelques pistes de réflexion. Alors, je trouve l'échec le plus simple. C'est l'échec dont on connaît clairement la cause. Alors, j'imagine que les jeunes ne connaissent absolument pas ça, parce qu'ils travaillent bien. Sérieusement. Mais vous savez très bien, si j'ai pas du tout préparé mon examen, si j'ai pas révisé, si j'ai pas écouté en classe, il reste donc pas grand-chose, si j'ai déjà pas écouté et que j'ai rien préparé, il y a de fortes chances que ce soit un échec. Sauf si je suis purement géniale, c'est une petite partie de la population, je sais qu'on en a dans l'église des gens géniaux, mais voilà. Si je ne prépare absolument pas, je risque l'échec. Si je fais le contraire de ce qui était conseillé, par exemple, je mets de la vaisselle dans mon lave-linge, au lieu de la mettre au lave-vaisselle, vous connaissez le résultat. Si j'ai désobéi à Dieu en toute connaissance de cause, je savais que Dieu ne voulait pas, mais je l'ai fait quand même, Jonas, je vais droit à l'échec. Si j'ai brûlé le stop ou le feu rouge, je prends des risques. Si j'ai insulté le patron, si je me suis hyper mal comportée avec lui, je risque un échec au niveau de mes promotions. Si je n'ai pas fait le boulot qu'on m'a demandé, pour lequel je suis payée, il y a de fortes chances que ma carrière vive des échecs. Si je n'ai pas respecté les clauses d'un contrat, voilà. Et si je n'ai absolument pas consulté le Seigneur, pareil, je risque un échec. Et là, dans la Bible, on a des tas d'exemples. Adam et Ève, vous ne toucherez pas, je touche. Vous ne mangerez pas, je mange. Joseph, hein, on parle toujours de Joseph comme d'un gars béni par le Seigneur, etc. Mais Joseph a eu un mauvais comportement. Il est allé faire le petit vantard auprès de ses frères. Il a rapporté tout ce que faisaient les grands frères, c'était des hommes adultes. Et lui, le petit jeune, là, qui ne bossait pas trop en plus, il allait rapporter tout ce que ses frères disaient et faisaient. Il a eu un mauvais comportement, ça lui a coûté fort cher. L'échec de la vente en tant qu'esclave, elle avait une cause. Hein. Ça a mal démarré, mais bon, il savait pourquoi. Moïse, quand il a tué le contremaître, bah, c'était un échec. Dieu ne lui avait jamais demandé ça. Jonas, bah, c'est le meilleur exemple, c'est celui qu'on aime. Va à Ninive. Je prends le bateau dans l'autre sens. Et quand il y a eu la tempête... Il n'a pas cherché midi à 14h, il a dit « Attendez les gars, arrêtez, c'est ma faute, c'est moi ». Il était conscient, Jonas. David, qui a suivi son désir, « Je fais ce que je veux, je suis le roi oh, ». Si je fais tuer quelqu'un, si je lui prends sa femme, bon, je suis le roi, quoi. Suis son désir. Le fils prodigue, « J'ai envie de vivre ma vie, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux ». Ouais, c'est pas une réussite pour finir avec les cochons. Josué, notre bon Josué, avec les Gabaonites, ne croyez pas que c'était un échec. se faire duper comme ça, pourquoi ? Parce qu'il n'a même pas consulté Dieu. Ce grand homme qui avait toujours eu cette relation extraordinaire avec Dieu, eh bien, il ne consulte pas Dieu, évidemment. Il s'est fait rouler de première. Ils ont arrangé les choses comme ils ont pu, mais quand même, il n'a pas consulté Dieu. Voilà. Alors là, on a tout un tas d'échecs. Et comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, si vous avez connu ou si vous connaissez en ce moment un échec de ce genre, pour moi, c'est le plus simple. C'est le plus facile à régler. C'est celui dont on s'en sort le mieux. Pourtant, c'est le pire, quelque part. Mais c'est le plus simple, parce que la démarche est claire. On reconnaît, Seigneur, j'ai péché. Vous vous souvenez, le fils prodigue ? J'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai fait le contraire de ce qu'il fallait. Bon. On demande pardon. On se repent. Seigneur, vraiment, je te demande pardon. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Et c'est simple. Et c'est plus simple que d'accuser les autres. Demande pardon, Seigneur, j'ai eu tort. On renonce à cette façon de faire. Seigneur, je renonce à cette façon de faire toujours ce que je veux, quand je veux, comme je veux, sans t'obéir, sans te consulter. On brise tous les liens que ça a pu poser sur nous, parce qu'il y a des gens qui, pendant des années, font ce qu'ils veulent et n'écoutent pas le Seigneur. Et puis, on répare ce qui peut être réparé, et on se décide à obéir. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Alors, vous relisez les psaumes de David, je crois que c'est 50, 51. Voilà, il reconnaît son péché, pas de souci, le Seigneur lui pardonne, il reprend sa vie. Les autres aussi, vous avez vu la suite pour Moïse, le grand Moïse. Dieu ne l'a pas rejeté. Il a passé un petit temps de désert, hein. Il a payé la note quand même. Mais il a appris des choses dans ce désert. Le fils prodigue, Jésus dit que le Père l'attendait les bras ouverts. On a fait une fête quand il est rentré. Donc, vous voyez, c'est des échecs, une fois qu'on les reconnaît, qui s'arrangent bien. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Dieu pardonne. Non seulement il nous aide à obéir, mais quand on rentre, quand on revient, c'est un Dieu de bénédiction. Et je cite toujours Adam et Ève. Parce que franchement, mettez-vous 5 secondes à la place de Dieu. Le plan parfait. Vous imaginez une nature sans épines, sans bestioles qui piquent, qui mordent, qui vous dévorent, etc. Une nature sensationnelle. Ils mettent tout par terre par leur désobéissance, sont obligés de sortir de ce jardin, c'est fini, la belle vie. Une vie éternelle, il n'y avait pas la mort, hein. Eh bien, il n'y avait pas le mal, il n'y avait pas la méchanceté qu'on connaît aujourd'hui, etc. Ils mettent tout par terre. Et quelle est la réaction de Dieu ? Moi, j'y réfléchis souvent. Moi, je ne sais pas, moi, en tant qu'humain, je les aurais détruits tout de suite. Hein, t'as cassé le plan de Dieu, ça ne vaut pas le coup de vous garder, quoi. Allez, pite. Imaginez si vous faites, les mamans, là, si vous faites une magnifique pièce montée, vous y travaillez pendant 2 jours, votre gamin arrive et puis il la jette par la fenêtre. J'imagine. Hein, et, voilà. Et c'est rien, c'est que du matériel. Ben vous imaginez quand c'est... Voilà, la création. Et la première réaction de Dieu, et c'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui disent que Dieu est un Dieu, un père fouettard, c'est vraiment qu'on leur a mis des fausses idées en tête. Relisez la Genèse, la première réaction de Dieu, ses premiers mots, c'est « Où es-tu, Adam ?» Ah ben c'est pas du tout ce que j'aurais dit, moi. « Où es-tu, Adam ?» Et puis après, une autre question. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas mangé du fruit ? Il voulait lui faire dire. Vous voyez, la notion de repentance, il faut déjà reconnaître. Il voulait lui faire dire. C'est tout. Et après, ils ont payé les conséquences, certes. Il faut accepter de payer certaines conséquences. Malheureusement, Adam et Ève ont dû payer les conséquences, et nous avec. Parce qu'on aurait probablement fait la même chose qu'eux. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il faut parfois reconstruire des relations. Il faut accepter de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. Il faut rétablir la confiance. Bon, il y a des conséquences, c'est sûr, hein. Si vous avez fait un couvage à quelqu'un, ça met du temps à rétablir la confiance. Mais Dieu vous pardonne, la personne vous pardonne. Après, il faut un petit peu de temps pour rétablir la confiance, c'est clair. Il y a des conséquences. Mais globalement, la miséricorde de Dieu est entière, le pardon de Dieu est entier. Et la bénédiction de Dieu revient dans notre vie après un échec, comme ça. Donc, ça, c'est intéressant. Le plan de rédemption de Dieu est toujours là. Est-ce qu'il y a quelque chose... Enfin, quelqu'un a écrit un article qui m'a beaucoup plu sur le fait que Dieu nous donne toujours une deuxième chance. si on n'a pas réussi du premier coup, et hélas, parfois troisième ou quatrième, il y a toujours une autre occasion. Le Seigneur nous donne toujours une autre occasion. Et pensez au nombre de gens dans la Bible qui ont vécu des échecs cuisants, qui ont appris de leurs échecs et qui ont connu par la suite des succès et des victoires extraordinaires. Tous ceux que je viens de vous citer, hein. Joseph, Moïse, Jonas. Il a même, il s'est permis le luxe de faire la tête après, mais Dieu n'a rien dit, il a souri. David, même Josué. Donc, on connaît par la suite des succès et des victoires extraordinaires parce qu'ils ont accepté leurs responsabilités, ils se sont repentis, ils ont supporté les conséquences, mais ils ont redémarré dans l'obéissance. Donc, ce genre d'échec, si vous en voyez dans votre vie, si vous êtes dedans, ça peut arriver, hein, c'est pas trop un souci. Dieu va s'en servir même. Dieu va même tourner vos échecs en victoire. Donc ça, c'est formidable. Pour notre instruction, pour notre avenir, il va disposer. Regardez Joseph, le petit vantard qui a empoisonné la vie de ses grands frères, qui se prend une bonne rouste, en fait, c'était un petit peu mérité quand même. Hein. Dieu va lui donner un chemin. Je pense, il a changé, d'ailleurs, vous savez, j'avais fait ce travail il y a des années. Son attitude avec ses frères montre qu'il a complètement changé envers ses frères. Il n'est pas dans la vengeance, il est juste dans la communication. Mais il n'est pas dans la vengeance, il aurait pu les faire manger par les crocodiles, il avait toute autorité. Il ne l'a pas fait, il a tout fait pour les faire réfléchir, pour qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait, mais il ne s'est pas vengé. Ça, c'est impressionnant. Et Dieu l'a béni. C'est devenu le premier ministre du Pharaon. Vous voyez, il démarre sa vie avec un énorme échec et il termine sa vie en étant béni et en étant une bénédiction pour toute sa famille. Donc, vous voyez, nos échecs, même volontaires, entre guillemets, Dieu peut les tourner à partir du moment où on se repent. Et c'est ça, je crois que c'était... Est-ce que c'était Maroni ou Nicolas Guillet qui avait parlé de... Ou c'était d'Annecy, je mélange tout là. Des disciples que Jésus a choisis. Il a choisi des gens plus ou moins ratés. Hein? C'était Nicolas Guillet. Un collecteur d'impôts. Vous savez, à l'époque, un collecteur d'impôts, Mathieu, je suis désolée, mais c'était les collabos. Hein? Il était rejeté de tous. Il va lui donner une deuxième chance. C'est devenu Mathieu, celui qui a écrit un évangile. Et bon, passons aux Zachée, etc. Donc Dieu, à partir du moment où on a fait des mauvais choix, on s'est repenti, le Seigneur redonne une nouvelle chance. Et ça, je trouve ça formidable. Hein? Alors maintenant, il y a un autre problème avec l'échec. C'est l'échec qu'on ne comprend pas. Alors là, je vais d'un extrême. Je sais ce que j'ai fait. Et il y a l'autre, on ne comprend pas. On a prié, on a écouté Dieu, on a fait ce qu'il fallait, on a obéi au Seigneur. On a fait de notre mieux. On a demandé conseil autour de nous. On s'est examiné soi-même et on ne voit vraiment pas d'où vient cet échec. Alors ça, là, pour un chrétien, c'est encore plus dur. Je ne comprends pas. Et vous devinez de qui je parle dans la Bible ? Job. Et vous savez, c'est déprimant de lire Job. Hein. Il y a des périodes où il ne faut surtout pas lire Job. Hein. C'est chaud, hein ? C'est vraiment, si vous êtes un peu triste, là, c'est pas le moment de lire Job. Job ou le livre des juges, c'est eux. Il faut lire les psaumes dans ces cas-là, oui. Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce genre dans la Bible. Ouf. Ça reste quand même des exceptions. Mais sa femme lui a dit, renie Dieu et meurs. Hein, finalement, tu vois, toute ta foi, tout ça, à quoi ça t'a servi, renie Dieu et meurs. Il va refuser cette solution, heureusement. Son respect de Dieu va demeurer. Mais quand même, hein, il discute avec Dieu. Mais pourquoi, j'ai pourtant, etc. Alors, il faut être très attentif. Moi, j'ai mis des années à comprendre. Je pense pas que je comprenne encore tout, mais il y a un petit point chez Job quand même, c'est qu'on le sentait bien légaliste. J'ai fait bien, donc je dois aller bien. Et on est tous un peu ça en tant que chrétiens. Seigneur, là, j'ai respecté, j'ai bien fait ce que tu m'as demandé. Ça va aller. Et quand ça va pas, alors là, on est complètement perdu. Et alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais si je comprends bien, il y a eu un moment où son cœur et son regard ont été transformés. Et où il a fini par dire, je reconnais que tu peux tout. Je suis qu'une miette devant toi. Non, vraiment, c'est trop compliqué pour moi. Et je reconnais que tu peux tout. Je vais le reprendre parce qu'il est trop beau ce texte. C'est un de mes textes préférés. J'ai parlé sans les comprendre de merveilles. Voilà, c'est juste avant. Je cherche du mauvais côté. Que je ne conçois pas, etc. Et je pense que c'est important parce que c'est là qu'on voit le changement. J'ai fait part sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Donc j'ai discuté avec Dieu de tout un tas de trucs, mais je ne comprenais pas tout. Et mon oreille avait entendu parler de toi. Donc il avait entendu, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il avait fait, ça devait marcher. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et je crois que là, il y a eu dans l'épreuve de Job un changement total de cœur, de regard et de mentalité. Et ce genre d'épreuve, ça peut nous arriver. Je connais des chrétiens, pas mal, hein, qui ont vécu ce genre d'échec. Et on a le choix entre devenir extrêmement rebelle. Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Comme vous savez, Job, il y a des moments où il dit ça. Je ne comprends pas, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, j'aurais jamais fait ci, j'aurais jamais fait ça, etc. Et pourquoi tout ça m'arrive ? Ou alors on a le choix de dire, je ne comprends pas, Seigneur, mais je me fie à toi. Je ne comprends pas du tout, c'est hors de ma portée, vraiment là. Mais je m'en remets à toi. Et Dieu, dans ces moments-là, nous transforme notre vision. Et il nous fait perdre notre légalisme. Ça, c'est sûr, c'est ça qu'on va perdre. On devient beaucoup moins légaliste. On dit, voilà, je ne comprends pas, je n'ai pas la prétention de tout savoir, de tout comprendre. Et ça transforme notre vision de Dieu, notre vision des autres. On devient beaucoup moins, on ne juge plus les autres. Et notre vision de nous-mêmes. Si on ne se révolte pas, comme ont fait les enfants d'Israël, hein, dès qu'il manquait d'eau, dès qu'il manquait de... On les comprend, hein, on aurait probablement fait pareil qu'eux. Oh, si on était resté en Égypte, on n'aurait pas tout ça, etc. Hein, on a ce choix dans les moments d'épreuve. Mais il faut vraiment le rejeter. Parce qu'après, on est transformé. Notre vision de Dieu est transformée. Mais c'est difficile. C'est très, très difficile. Mais c'est vrai que le résultat après est quand même extrêmement bon. Alors, entre ces deux extrêmes d'échecs, hein, l'échec quasi volontaire et celui où on ne comprend rien, ben, il y en a tout un tas. Alors, je vais essayer d'en aborder quelques-uns. Un qui est inquiétant, c'est les échecs répétitifs. C'est-à-dire que on a quelque chose, par exemple, qui ne va pas. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on repasse un examen, ça ne marche pas. Ou on a une difficulté avec quelqu'un, on retombe toujours dans les mêmes difficultés. On a des difficultés au travail. Et je vais vous citer l'exemple d'une chrétienne qui était venue me voir il y a des années en me disant, je crois que c'était la quatrième fois qu'elle passait son examen pour être infirmière. Et à chaque fois, à l'oral, l'écrit formidable, et à l'oral, recalé. Et c'était quelqu'un de brillant. C'était quelqu'un de vraiment brillant intellectuellement, qui s'exprimait très bien. Pourquoi ? Pourquoi ? Et franchement, j'ai eu du mal à lui répondre, parce que ce que le Seigneur m'a mis à cœur, et j'aime pas trop, hein, c'était de lui dire, c'est ton comportement qui doit changer. C'est toute ton attitude, ta façon de répondre, ta façon d'agir, ton langage corporel, c'est ça qui bloque les gens. Alors, je ne lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit, peut-être que c'est ça. Et prie là-dessus, essaie, avec l'aide de Dieu, de changer ça. Et vous devinez bien, elle a passé son examen. Ce n'était pas du tout un problème intellectuel, c'est simplement son comportement qui bloquait les gens à l'oral. Elle pouvait être très bloquante dans sa façon de se comporter, mais elle ne s'en rendait pas compte. Et alors, quand on a des échecs répétitifs comme ça, s'il y en a dans votre vie, alors qu'ils soient relationnels, qu'ils soient à l'école, etc., une des premières choses à faire, c'est rechercher Dieu et écouter. Parce que, bon, et peut-être demander conseil, effectivement, parce que quelqu'un d'extérieur va peut-être voir. Dans certains cas, il va falloir choisir la persévérance. Hein, Mine a eu son permis. et cette jeune femme a eu son examen. Il y a des moments où il faut persévérer. Il y a des moments aussi où c'est du ressort de certaines malédictions qui ont été posées, et particulièrement les vœux insensés. Hein, admettons quelqu'un, je ne connais pas de cas, mais ça peut très bien arriver. « Ah, moi, je ne serai jamais dans l'enseignement. » Puis voilà que la vie fait que la personne, eh ben, elle ne peut pas faire autrement, et elle va rentrer dans l'enseignement. Et curieusement, elle va rater tous ses examens. Chaque fois qu'il faut, pour être titulaire ou je ne sais quoi, ça va rater. Parce qu'elle a prononcé ce mot. Voilà, Ça, c'est typique. Hein? On dit des choses, et c'est pour ça qu'André a insisté ce matin sur le fait de, quand vous dites « je suis Charlie », il y a des conséquences. On n'y échappera pas. Donc, il y a un nouveau hashtag à propos qui dit « je ne suis pas Charlie, mais je suis pour la liberté d'expression ». Celui-là est excellent. Mais les mots qu'on prononce nous lient. Alors là, quand on m'a dit ça la première fois, je vous avoue qu'en bonne évangélique, je me suis dit « bof, 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 Dieu est plus grand, ta, 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 ta ». Ben oui, mais nos paroles, que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Ma mère m'a répété ça toute mon enfance. Et c'est vrai, quand je dis quelque chose comme ça, je me lie. Et attention, les échecs répétitifs peuvent venir de là. Je me suis liée par mes paroles. Du style, ben moi j'aurais jamais d'amis, je fais confiance à personne. Devinez quoi? Bah, à 40 ans, la personne n'aura toujours pas d'amis. Elle se demandera pourquoi. Elle ne se rappellera pas qu'à 16 ans, à la suite d'une copine qui lui a fait un mauvais tour, elle a dit ça. Vous voyez? Et je pourrais vous citer des tas d'exemples comme ça. Donc attention à ces vœux insensés. Ces paroles de malédiction aussi, qui peuvent courir dans les familles. Hein, mon enfant ne sera jamais ceci ou sera jamais cela. On a récemment conseillé quelqu'un qui a retrouvé dans son enfance des malédictions terribles. Et ne savait pas. Qui explique beaucoup de choses. Des problèmes héréditaires. Aussi, parfois, ça va jusqu'à une mauvaise image de soi qui bloque et qui fait qu'on a des échecs répétitifs. Donc voilà, quand vous avez dans votre vie des échecs répétitifs dans certains domaines, même peut-être des choses pas très importantes, mais ça peut quand même vous pénaliser, cherchez le Seigneur. Demandez conseil, n'hésitez pas à demander un conseil pastoral, à demander de l'aide, à prier. Et écoutez le Seigneur, peut-être il vous fera remonter quelque chose pour vous dire, voilà, il y a ça qui ne va pas. Alors, il y a une autre sorte d'échec. Il y a l'échec qui n'en est pas un. Mais à vos yeux, c'est un échec. Alors, je cite toujours cet exemple, je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà entendu. Le jeune couple, tout content, qui a un petit peu d'argent de côté, qui va s'acheter une maison, il trouve le terrain idéal. Ils sont heureux, merci Seigneur, et tout leur est refusé. C'est une histoire vraie. Et alors Seigneur, pourquoi? Mais comment? Mais tu as permis qu'on ait assez d'argent, tu as permis qu'on trouve l'endroit de nos rêves. Rien, le Seigneur reste bloqué. Non. Oh, quelle tragédie, finalement il trouve autre chose. Des années après, il repasse à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui était construit à côté? Une usine de caoutchouc. Ils auraient eu ça toute leur vie, je ne pense pas qu'ils auraient été très heureux. Dieu savait. Donc pour nous, ce qui est un échec aujourd'hui peut être un succès en fait. Mais nous, on le vit comme un échec. Enfin, pour avoir cherché pendant assez longtemps un terrain pour notre maison, je vous assure que c'est angoissant. Hein. En plus, l'agent immobilier nous avait téléphoné en disant « Vous savez, dans vos prix, vous ne trouverez jamais. » Un dimanche matin avant le culte. Très encourageant ça. Il fallait le faire. Hein. Et ben, on a trouvé quand même, mais... Et Dieu nous a bénis, mais je veux dire, il y a des moments où quand on cherche, qu'on ne trouve pas comme ça, on dit, mais Seigneur, tu nous abandonnes. Eh oui. L'échec à certains examens. Et ça, alors là, j'ai vu des tas d'exemples. On se prépare, on passe l'examen, échec. Pourtant, on a bien travaillé, on a prié, les gens ont prié pour nous, l'Église a prié. Échec. On repasse, échec. Alors parfois, il faut persévérer, parfois, il faut essayer de trouver pourquoi, mais parfois, c'est simplement que Dieu dirige autrement. Dieu dirige autrement. Je me souviens, ma sœur voulait absolument rentrer dans l'enseignement. Ça, c'est un exemple qui m'a frappée, parce que, vous savez, les gens qui sont à côté de nous, on pleure avec eux. Et au moment où, à l'époque, avec le brevet élémentaire, on pouvait rentrer dans l'enseignement, elle passe son brevet, elle le rate une ou deux fois, elle passe encore une fois, elle le réussit. Et ce jour-là, il y avait les rapatriés d'Algérie qui sont arrivés. Il fallait un diplôme supérieur, le jour même, où elle était partie chercher son poste. Mais pourquoi, Seigneur, tu fais ça? L'échec! C'est vraiment l'échec, quoi. Toute votre vie, vous avez rêvé d'être enseignant, etc. Et puis, en fait, elle s'est retrouvée dans les bureaux, elle s'est retrouvée cadre à la sécu, elle dirigeait les écoles de cadres, et elle s'est aperçue un jour, fortuitement, mais au fait, je fais de l'enseignement depuis des années. Mon rêve. Avec des adultes motivés, en plus. Beaucoup moins fatigant qu'une troupe d'enfants qui en ont marre de l'école. Et, et du coup, elle a réalisé qu'en fait, son rêve était parfaitement réalisé. Mais pas comme elle avait décidé. Et tout ce qu'elle avait cru être des échecs, c'était Dieu qui la poussait tout doucement vers la bonne voie. Mais ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle voulait. Le bureau de la sécu, l'horreur absolue. Eh oui, mais tout le reste de sa vie, elle a fait de l'enseignement. Et moi, ça m'arrive d'aller faire les courses avec elle à Rouen et de rencontrer des anciens élèves qui viennent l'embrasser parce que c'est une enseignante extraordinaire. Voilà. Dieu, on ne rate pas. Parfois, on croit qu'on rate, mais on ne rate pas. Donc, il ne faut pas s'affoler. Il tient notre vie en main. C'est pour ça que je vous ai lu ce psaume pour commencer. Il est là, quand on croit être dans l'échec. L'appel de Dieu, c'est pareil. Parfois, les gens pensent, « Oh, mais il a raté sa vie. Il avait des diplômes et tout. Il est devenu pasteur, ou il est devenu missionnaire, il est parti, etc. » Pour certaines personnes, c'est un échec. Moi, j'ai entendu des parents chrétiens, même des grands-parents chrétiens, dire, « Oh, il va pas être pasteur quand même, il va pas être missionnaire, il va pas rater sa vie comme ça. » Curieux, curieux. Le plan de Dieu, l'appel de Dieu. Parfois, on dit, « Oh, mais c'était pas du tout ça qu'il aurait dû faire, etc. » Je me souviens, une fois, c'est mon cousin qui n'est pas... Enfin, il est catholique, mais... Qui m'a dit, mais finalement, avec toutes les études que tu as faites, tu ne trouves pas que c'est un peu gâché Il n'a pas prononcé le mot échec, mais je sentais qu'il n'était pas loin derrière sa tête. De rester à la maison et d'élever les enfants. J'ai dit, oh non, pas du tout. Pas du tout, parce que tout ce que j'ai appris, je m'en sers. Différemment, mais je m'en sers. Les parents qui ont des enfants dans les classes de lycée, ils savent qu'on s'en sert. Voilà. Et dans tout un tas d'autres domaines. Alors, il y a un autre échec, donc celui-là, faut faire confiance à Dieu dans certains moments. Je pense aussi aux emplois. Parfois, on demande un emploi, puis Dieu ferme la porte. Je sais que Laurence a vécu ça pendant un temps. Ah, voilà, ouais, ben oui, toi aussi. Et puis Dieu ferme la porte, dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais j'étais bien, mon CV était bien, et puis j'avais des bonnes notes. Je sais, Laurence, elle avait tout plein de bonnes appréciations. Puis bon, Dieu ferme la porte. Il sait pourquoi. Alors nous, on ne le sait pas toujours. Mais parfois, des années après, quelqu'un a eu ce poste-là. Puis il nous dit, oh là 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 là, le chef, c'était une horreur. C'était... Ah, merci Seigneur, tu m'as préservé. Mais sur le coup, on ne sait pas. Donc il faut apprendre à faire confiance à Dieu et dire, Seigneur, si tu me fermes la porte, ok, j'accepte. Ça s'est vu aussi dans des mariages. Ça, j'ai connu ça dans mon église. Il y avait un groupe de jeunes, d'une centaine de jeunes. Donc, on en a vu des mariages. Et certains, ils disaient, mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Puis un jour, on découvre que le gars ou la fille qui voulait absolument épouser, eh ben, ils n'ont pas regretté. Je ne donne pas de détails. Alors, échec de l'apprentissage. Échec de l'apprentissage. Celui-là, il est passionnant, mais hyper casse-pied, parce qu'on ne peut pas passer au travers. Alors, je vous ai dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas apprendre à faire du ski correctement? Parce que je ne veux pas tomber. Moi, je trouve ça pas marrant de tomber, surtout sur deux bâtons là, qui sont retournés comme ça, qui peuvent vous faire très, très mal. Non, moi, je ne trouve pas ça drôle. Alors, je me souviens, quand on a fait un camp de ski avec le GBU, il y avait un étudiant en médecine qu'on connaissait bien, il tombait tout le temps. Benoît était tout le temps par terre. J'ai dit, mais comment il fait? En plus, il était très grand. Donc, quand il tombait... Ah oui, ça faisait une boule de neige, carrément. C'était horrible à voir. Je dis, oh, Benoît, il va se casser en morceaux. Eh bien, il a appris à skier. Ah oui, il s'est bien débrouillé. Mais on l'a vu beaucoup par terre le premier jour. Mais n'empêche que Benoît, maintenant, il skie et moi pas. Ah, moi, je ne suis pas tombée, mais je n'ai pas skié non plus. Donc voilà, j'arrive à faire un peu de ski de fond, avec mille une précautions, mais c'est tout. Donc voilà, l'échec de l'apprentissage, je l'appelle comme ça parce qu'on ne peut pas passer au travers. L'enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se fait des bignes, il a des bleus partout. J'ai vu Samuel et Cathy, comment ils avaient peur, ils lui mettaient un petit casque. Eh bien oui, parce que ça fait mal d'entendre boum et boum et sur la table, sur le coin de la table basse. C'est horrible à voir et nous parents, oh ça y est, surpris une bing. Ça va toi Sylvie, ça te avec tes petits? Ouais, quand même, ça continue à faire peur, même aux professionnels. Mais ça fait partie de l'apprentissage de la marche. C'est dur, si on réfléchit 5 minutes. Mais ils sont persévérants, les petits. Ils ne se posent pas de questions, ils n'accusent pas Dieu. À propos, devenez comme des enfants. Ils n'accusent personne, et même ils ne nous accusent pas, nous. Alors parfois, c'est nous qui avons laissé un truc dans le passage, et ils sont bel et bien cassés la figure. Vous avez déjà vu un tout petit vous regarder en disant « Si tu n'avais pas laissé ta chaussure ici, je ne me serais pas !» Non, ça ne lui vient même pas à l'esprit. Il tombe, il se relève. Et il n'accuse personne. Bravo les enfants. Parce que moi, c'est ce que je ferais. t'as laissé ça là. Voilà. Donc, cet échec d'apprentissage, il faut l'accepter. Il ne faut pas se retourner contre Dieu. Il ne faut pas se retourner contre les autres. C'est ce que je disais dimanche dernier, mais il faut l'accepter. Ça fait partie de notre croissance. Le problème avec cet échec-là, c'est que les petits, c'est juste les premières années. Nous, c'est toute la vie. C'est moins drôle. Toute la vie, on va avoir des échecs qui servent à notre apprentissage, qui servent à notre formation. Et ça, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Les petits, ils apprennent aussi le danger comme ça. Moi, je sais que j'en avais marre qu'ils voulaient toucher la porte du four. Donc, un jour où je faisais des meringues, le four très très bas, je les ai laissés s'approcher et mettre la main. Il n'y avait pas de risque, avec un four à meringue, c'est pas bien méchant, ils retirent vite la main, ils ne reviennent plus. En principe, il y en a qui essayent encore. Mais on apprend le danger aussi. Et avec l'échec, on apprend ce qui est dangereux. C'est vrai pour les petits, c'est vrai aussi dans le relationnel. On va avoir des échecs relationnels. Regardez les petites filles. Je parle des filles parce qu'elles ont plus de problèmes que les garçons. Les garçons, ils se battent, ils s'étripent et après ils sont copains. Les filles, elles se disputent, elles s'arrachent les cheveux, elles font du cirque et elles sont fâchées pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Et parfois définitivement. Mais ça fait partie de l'apprentissage des relations. Ça fait partie. On se fâche, on se défâche, on se refâche. Voilà. Les gars résolvent ça à quelques bons points. Et puis, en général, ça se passe plus facilement. Mais voilà, ça fait partie. Les échecs relationnels, ça fait partie de notre formation. On n'aime pas ça, parce que ça nous touche profondément. Mais ça fait partie, parce qu'on a des choses à apprendre. On a besoin d'aller voir le Seigneur et dire, Seigneur, pourquoi cette personne que j'aimais beaucoup, elle s'est fâchée avec moi? Et ça vaut parfois... dans l'introspection, dans la culpabilité. Mais ça fait... Ah, je crois que j'ai réussi à mon heure. Voilà, donc l'échec relationnel, c'est dur à vivre. L'échec dans l'église, il faut en parler, parce que les églises ne sont pas parfaites, il se trouve qu'elles sont faites d'humains, à moins que vous soyez des anges, parfois je vous le dis, si vous êtes un ange, c'est vrai. Mais bon, on est humain et on fait des bêtises, en tant qu'humain, on dit des bêtises, on peut se friter, on peut se fâcher. J'ai beaucoup aimé la façon dont André a géré le problème de cette dame qui a eu l'enterrement où personne n'a pu aller parce qu'elle n'a pas donné l'heure, etc. Mais c'est bien de dire, ok, on a échoué, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû, mais c'est notre apprentissage. On sera plus attentif la prochaine fois. Et elle l'a très bien accepté, elle l'a très bien compris, et je crois qu'elle est venue demander pardon après. Enfin, moi, j'étais à l'école du dimanche. Mais voilà, je pense que voilà, c'est un exemple de l'apprentissage par l'échec. On fait une bêtise, on la reconnaît, on demande pardon et on se relève. Et dans l'église, c'est pareil. Et il faut savoir que dans l'église, ça nous arrive tout le temps. On va oublier de saluer quelqu'un, on va oublier de demander des nouvelles alors qu'on sait pertinemment qu'elle est malade. Ça arrive. Ça fait partie de notre apprentissage. Et puis on apprend à être plus attentif après. Mais ça arrive. On se fera forcément du tort, on se fera forcément des vexations, etc. dans l'église parce qu'on est humain. Et c'est très beau quand on peut justement passer au-dessus et se réconcilier et dire ok. C'est très beau. Et je suis sûre que le Seigneur est très touché de ça. Moi, je sens, quand il y a les gens qui se réconcilient, se demandent pardon, on sent le cœur du Seigneur qui éclate de joie, quoi. Waouh ! Ils l'ont fait ! Ils y sont arrivés ! C'est bien, je suis fière d'eux, je crois. Et moi, je le sens comme ça. C'est un apprentissage de la vie ensemble, l'Église. Et nos échecs, nos erreurs, nous apprennent toujours quelque chose. D'où la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je dois apprendre dans cette situation? Tout le temps. Et c'est la question que je me pose. Avec André, c'est la question qu'on se pose chaque fois qu'on vit quelque chose qui ne va pas dans l'église ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Comment est-ce que Dieu voit les choses? Et pas rester bloqué sur moi, moi et moi, quoi. Mais qu'est-ce qu'il va falloir que j'apprenne dans cette situation-là? Et vous savez, ça aide, parce que si c'est un conflit, par exemple, dans l'église, au lieu de se fixer sur la personne, on se fixe sur le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre là, maintenant? C'est plus facile à vivre. Alors, je ne sais pas si je vais me faire tuer, oui, c'est possible. Donc, oui, midi 10. Bon, d'accord. Alors, il y a d'autres sortes d'échecs, je les évoque seulement, j'en parlerai peut-être la prochaine fois. C'est les échecs qu'on vit et dont on va se servir pour aider les autres. Et ça, je l'ai souvent vu dans les églises. Et moi-même, je fais appel à certains d'entre vous parfois pour témoigner, pour dire, tiens, explique-lui ce que tu as vécu, parce que moi, je ne l'ai pas vécu ça. Je vais avoir beaucoup de mal. Par contre, toi, tu vas le faire beaucoup mieux que moi. Et on l'a vécu, je me souviens, il y a quelques années, où Marie-France avait pu répondre à quelqu'un. Moi, je ne pouvais pas de la même manière. Et je pense que suivant ce qu'on a vécu les uns les autres, on va s'en servir. Nos échecs, nos difficultés, nos épreuves vont rendre service. Et on pourra en témoigner. Et on pourra empêcher que les autres tombent dans les mêmes. Donc voilà, ça, on en reparlera. Et puis, il y a l'échec dans notre tête. Alors, celui-là, il est méchant. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'échec. Mais tout est dans la tête. Je suis un raté. Je suis une victime. Je ne vaux rien. Je vis un échec permanent. Ce n'est pas vrai. Et j'avais juste cette phrase. Bon, ça, on reviendra là-dessus. Pour Dieu, notre succès, c'est la conformité à l'image de Christ dans la situation où on est. Et c'est la meilleure préparation au succès. Chercher à faire comme Jésus. Bon, on y reviendra. Il y a toujours cette deuxième chance. Il y a l'échec qui est ressenti dans la pensée ou dans les paroles des autres. Celui-là, il est méchant aussi. Et ce n'est pas un échec. Alors, je crois qu'André avait parlé de cette famille qu'on aime beaucoup. Ils sont tous médecins. Puis il y en a un qui a fait l'IUT. C'était un désastre, c'était un échec. Ce n'était pas un échec. C'était sa vocation, c'était sa vie. Voilà, donc on reparlera de ça aussi, parce que c'est important de bien gérer ça. Ça peut être très délétère, ça peut vraiment être assassin. Et en fait, c'est pas juste. Hein, c'est quelque chose de pas juste. L'échec dans les relations, dans la famille, dans le travail, l'échec qui est ressenti par les parents, on en reparlera la prochaine fois, parce que j'ai plus le temps. Et je voudrais juste terminer, non pas par la conclusion, mais par l'échec apparent de Jésus, puisqu'on parle des échecs qui n'en sont pas. Je crois que s'il y a un échec qui n'en est pas un, c'est bien celui de Jésus. Il n'a rien fait face aux Romains, alors que tout le monde attendait qu'il délivre le peuple des Romains. Échec. C'est ça qui a bousillé Judas. Parce qu'il était zélote. Il pensait qu'il allait le délivrer. L'échec... Au moment du procès, ne croyez pas que les disciples qui ont vu ça, dans leur petite tête, ils ont dit « Mais ça, c'est raté, quoi. » On croyait vraiment que c'était le Messie. Et quand ils l'ont vu sur la croix, échec, oh, total, ils l'ont tué. Tous nos espoirs, toute notre foi, tout est foutu. Le pire échec qu'on ait jamais vu. Même le diable, il y a cru. Il était tout content. C'était la plus grande victoire. Donc, faut garder ça. Nos échecs peuvent devenir de sérieuses victoires. Et elles le deviendront. Si on se repent quand on en a fait exprès. Et puis, si on cherche la pensée de Dieu. Si on cherche ce que Dieu a en tête pour nous. Hein, sa vision, etc. Nos échecs vont devenir des succès. Et ça, c'est toujours... Je commence à avoir de l'expérience. J'étais dans une grande église. J'en ai vu de toutes sortes. Hein, sur 600 personnes, vous savez, vous en voyez. Hein. Puis j'étais à 4 réunions par semaine. Je la connaissais bien, mon église. Depuis toute petite. Hein. Et je peux vous dire que les échecs, quand les gens se confient en le Seigneur, ils sont tous transformés en succès. Et parfois même très glorieux. Très, très glorieux. Et moi, je terminerai avec juste un échec que vous connaissez bien, c'est Joyce Meyer. Côté échec, elle en a connu. Hein. Vous avez vu ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle a eu un mari qui allait dans la forêt prier et pleurer pendant des heures. Tellement il souffrait avec elle, elle était insupportable. Et c'est elle qui le dit, hein. Voilà. Et vous voyez ce qu'elle est aujourd'hui, à cause de la prière et de la fidélité de son mari. Et elle aussi, qui a fini par obéir à Dieu. Donc vous voyez, les pires échecs peuvent devenir des succès formidables. Et c'est ce que vraiment je nous souhaite pour cette année. Je terminerai la prochaine fois, parce que là, je sens que j'ai dépassé.